Alors non, pas du tout. Ce mot n'a pas fait sens toujours dans ma vie. Il a fallu que j'attende l'annonce de l'année sainte pour m'intéresser au mot et pour en voir à la fois en latin et en hébreu toute la pertinence, et je dirais, avec le côté hébraïque, à mon avis, encore plus fort que l'hébreu, de capacité de transformation.
On parle de ramen, des viscères ?
Exactement. Les entrailles maternelles, c'est là où l'enfant croit, grandit. Et je crois que la miséricorde, et c'est comme ça que je la vis avec cette définition-là, c'est comme si on était plongé en Dieu lui-même et qu'il nous transforme et qu'il nous permet de grandir et d'être formé à son image. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça.
Vous parlez de pertinence, est-ce que c'est par rapport à notre époque ou par rapport à vous ?
Alors, moi, je suis très tourné de par mon ministère vers les nouvelles attentes spirituelles. Le mot miséricorde n'est pas un mot usité dans la société. Enfin, en France, on ne l'utilise pas. On parle de bienveillance, on parle de compassion, d'empathie, et tout le monde adore ces mots. Et miséricorde, je crois qu'il va falloir faire un effort de communication pour montrer à la fois en latin donner son cœur à celui qui en a besoin, au plus pauvre, et en même temps cette entraille maternelle qui nous transforme, ça mérite à chaque fois une explication.
À l'annonce de la naissance, vous dites avoir été saisi.
Ah, moi, je dois dire, moi, quand j'ai lu la bulle d'indiction du pape, je me suis dit, il y a quelque chose de capital pour l'Église. Je suis frappé, et ça m'attriste profondément, de la crise que nous traversons en France, du regard soupçonneux que les gens ont sur l'Église et sur la foi chrétienne. Et je m'aperçois à travers tous les gens qui sont en dehors du système des pratiquants qu'ils vont chercher dans d'autres spiritualités, de quoi croître et grandir. Et que dans l'Église, ils ont trop l'impression, pardonnez-moi cette banalité, qu'on est moraliste, ritualiste et qu'on pense qu'à donner les soins à tout le monde. Et l'image de Jésus, ce regard aimant de Jésus a du mal à passer. Alors quand j'ai eu le texte du pape avec les premières lignes, le Christ est le visage de la miséricorde, moi j'ai une foi très christocentrique, eh bien j'ai dit là quelque chose de fondamental qui va se jouer, et il ne faut pas qu'on loupe le coche. Je ne voudrais pas en avoir d'inquiétude, mais je ne voudrais pas que cette année de la miséricorde devienne un non-événement.
Est-ce que vous vous êtes porté volontaire pour être missionnaire de la miséricorde ?
Alors oui, tout à fait. Quand j'ai lu ce texte et que j'ai vu à la fin que le pape disait qu'il allait envoyer des missionnaires, je crois que dans les 48 heures, j'ai envoyé une lettre au Vatican en expliquant. Voilà. Alors moi, j'ai un petit peu un chemin particulier avec le pape François. Quand il était élu, j'ai suivi son élection sur mon lit d'hôpital. Je venais d'échapper à la mort. Et j'avais vu son élection et quand il s'inclinait devant les personnes, la prévenance qu'il a eue. J'ai été profondément touché par cet homme. J'ai eu l'impression de trouver dans le pape François un père spirituel vivant. Il vit ce qu'il dit, il dit ce qu'il vit. Son attention aux plus pauvres, son attention à l'économie, voilà. Donc je lui ai écrit tout ça et je lui ai dit, voilà, si vous avez besoin d'un volontaire, eh bien moi je suis volontaire, mais évidemment, c'est vous qui décidez. Donc j'avais relu une lettre, une belle lettre de monsieur Fisichella dans la foule, qui disait, on a pris en compte votre candidature, il faut l'autorisation de votre archevêque, et un missionnaire miséricorde, c'est ça, ça, ça et ça. Nous étudierons, merci de ne plus prendre contact avec nous. Et donc j'ai attendu. Et puis voilà.
Comment est-ce que vous le vivez ? Comme un encouragement ou comme un appel à la conversion personnelle ?
Je pense qu'il y a des gens bien plus sains que moi qui auraient pu être appelés et qui ne l'ont pas été. Donc je le prends comme un appel à la conversion. Quand j'ai quitté la France samedi, j'ai dit à mes amis, il va se passer quelque chose. Voilà. Je suis certain que je ne reviendrai pas comme avant. Je suis un prêtre avec un parcours un peu atypique, un prêtre à 40 ans, après 17 années de vie professionnelle, des missions assez atypiques, psychologue, responsable d'un centre de méditation, à l'extérieur maintenant, tourné vers la rue et les gens. Et je le vis comme une conversion. Voilà. Quand je dis il faut communiquer, en fait, le mot est mauvais. Vous voyez, il n'y a pas de répit, là. Ce prêtre a souffert toute sa vie. Et je me disais, mais sa souffrance, voilà. Tous ces gens du monde entier qui viennent le prier. Et en fait, on a besoin de pas de répit, avec des S. Communiquer, c'est quoi ? C'est devenir saint pour moi. C'est pas améliorer mon site ou ma page Facebook, ça je m'en fiche. C'est essayer de devenir un peu plus lumineux. Et les missionnaires, pour moi, c'est un appel, nous, à devenir lumineux, à aider les gens à l'être plus, parce que tous les chrétiens sont missionnaires de la miséricorde. En entreprise, dans les quartiers, dans l'administration. Pardonnez-moi ma banalité, on est dans un monde dépressif, et je crois qu'on a besoin de lumière.
Et alors, comment est-ce que vous souhaitez, comme missionnaire de la miséricorde, être plus lumineux ?
Eh bien écoutez, je peux avoir des envies. Mais si j'ai des envies, c'est Gourier qui parle. Ça n'a pas d'importance. Avant tout, j'ai envie d'être réceptif à ce que va me demander Dieu. Et je suis certain que des choses vont arriver. Voilà, je compte sur la Providence. et qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour montrer ce que je dois faire. Là, actuellement, je vais continuer à faire ce que je fais. Mon archevêque me donne une mission. En France, j'anime un centre de méditation avec des méditations à la fois psychologiques pour lutter contre le burn-out, la dépression, spirituelle à partir des pères du désert. Et déjà, je suis frappé, parce que méditation en France, je ne sais pas en Italie, mais c'est un mot magique. Vous mettez méditation, vous vendez votre ouvrage tout de suite, même s'il est mauvais. Les gens sont fascinés par le mot. Donc nous, on essaie de faire une méditation chrétienne à partir des pères du désert. Et j'ai déjà rencontré des gens qui étaient venus, qui sont venus se confesser. Un monsieur, ça m'a frappé. Il ne s'est pas confessé depuis l'âge de 12 ans. Et ce jour-là, au centre, il a voulu se confesser. Et il n'est pas rare qu'on rencontre ces chrétiens qui ne sont plus dans l'institution, qui ne pratiquent plus vraiment, mais finalement qui ont fait tellement d'expériences dans des tas de spiritualités différentes, qu'à un moment donné, quelque chose s'éveille en eux, et je pense que Jésus leur parle. Ils se disent « mais j'ai une tradition, et si j'y revenais ?» Donc voilà, ça va être essayer d'être encore plus témoin parmi ces gens-là.
Vous êtes psychologue, vous êtes prêtre, est-ce que c'est difficile de faire la part des choses entre les deux ?
Alors, je distingue complètement voilà, psychologie de spiritualité, voilà. Je distingue les deux et j'ai la chance d'avoir pu à la fois travailler en tant que psychologue dans un hôpital psychiatrique laïque, donc en civil complètement, en essayant d'aider les personnes. Moi, j'ai vu des gens détruits, la vie rude. Donc là, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel n'est jamais très loin, pour une simple raison. Les pères du désert, moi j'aime beaucoup Évagre le Pontique, Jean Cassien, Diadoque de Fautissé, étaient à mes yeux les meilleurs psychologues du monde. Les pères du désert, les pères de l'Église, nous encouragent à nous connaître nous-mêmes. Parce que quand on apprend à se connaître, qu'est-ce qu'on découvre au fond de nous ? L'image de Dieu. À la fois cette source jaillissante et en même temps à côté, ce qu'Origène appelle les déblais, les cailloux, tout ce qu'il y a de pas beau dans notre cœur. Et je trouve qu'on ne passe pas assez de temps, nous les chrétiens, dans cette introspection au sens le plus noble du terme, à la lumière de l'Évangile, pour unir la grâce de Dieu, je peux rien sans Dieu, et l'effort de l'homme. Dieu ne peut rien sans moi. J'ai l'habitude de dire que la grâce et l'effort sont les deux ailes du même oiseau. Si on veut s'élever dans le ciel, il faut unir les deux.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de repentance sans écoute et sans réconciliation avec soi-même.
Complètement. Mais c'est le miracle. Moi, je suis triste de voir que le sacrement de réconciliation a mauvaise presse. Oh, je me confesse plus, je parle directement à Dieu. Moi, je dis toujours aux personnes, là, je parle en tant que psychologue, attendez, entre vous dire tout seul, Dieu me pardonne, et entre quelqu'un qui vous dit de l'extérieur, voilà, tu as dit tout cela, on confie tout cela au Seigneur. Ce sacrement est le début de quelque chose de nouveau, et maintenant, je te pardonne au nom de. Mais c'est fabuleux. On reçoit le pardon de l'extérieur. On ne se le donne pas tout seul. La chose difficile, et en tant que confesseur, je pense que d'autres vous l'ont dit, là où je suis plus triste, c'est quand vous donnez l'absolution à quelqu'un et qu'elle repart triste. Pourquoi ? Elle ne s'est pas pardonnée. Et vous avez beaucoup de gens qui ne se pardonnent pas. Et dans ce cas-là, le pardon de Dieu, il glisse. Voilà. À ce moment-là, on peut espérer que plus tard, ce ne sera pas la même chose.
Le pape dit que l'Église est comme un hôpital de campagne, qu'il faut soigner les blessés. Est-ce que les missionnaires de la miséricorde sont un peu les infirmiers de l'Église ?
Alors, je ne sais plus. Un cas spirituel a dit que le confessionnal était l'infirmerie de Dieu. Mais c'est exactement ça. On panse des blessures. J'avais une célébration pénitentielle jeudi dernier. Les gens qui viennent, ce n'est pas pour dire qu'ils ont mangé de la confiture. Et on sent leurs blessures, on sent qu'ils ont envie d'avancer. Donc il faut montrer que ce sacrement, le mot est un peu maladroit, est comme une fête. Pour moi, il est nuptial, ce sacrement. C'est-à-dire que loin d'être sinistre, on est non seulement pardonné de Dieu qui se jette à notre cou, mais on est plus fort qu'avant pour continuer la route.
Quel serait votre souhait, si vous deviez en faire un, pour cette année jubilaire ?
Moi, ce que j'espère, c'est que l'année de la miséricorde va être une année de redécouverte, pardonnez-moi le mot qui paraît désuet, mais de dévotion au Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur en France, ça paraît ringard. Je suis dans une ville, Poitiers, qui était la deuxième ville en France après Paray le Monial consacrée au Sacré-Cœur. Il n'y a plus rien. Les religieuses ont vendu leur couvent. Il y a une sœur Josépha qui avait écrit un ouvrage suite à des apparitions de Marie. Personne n'en parle. Messe du Sacré-Cœur l'année dernière, 100 personnes. Voilà. Parce que ça apparaît à une dévotion 19e-iste. Mais non, c'est pas vrai. On a la chance d'avoir une religion où Dieu n'est pas sur un nuage qui nous surplombe. Il est descendu à notre hauteur et en plus, il a ouvert son cœur. Passons pas à côté.